France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza. À demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3. Pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écouteurs, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui fait une pause pour les grandes vacances. Dernière émission de l'année avant de vous retrouver dès fin août pour une nouvelle saison de Cri du Patchwork pour le plus grand bonheur des oreilles de l'équipe du Cri. J'ai nommé l'immense Perrine Mingui, toujours aux commandes de ce collage foutraque depuis 3 ans, et Flora Sternadel, toujours à chercher des sons introuvables, surtout quand ils n'existent pas. Et pour terminer cette année faite de nos limites, d'environnement, d'entendre, de bribes, de déconstruction, d'instants, d'intime et de politique, j'ai l'immense honneur de recevoir ce soir un homme qui réunit tout cela à la fois. Créateur hors normes, constamment haut perché, que ce soit cosmologiquement parlant ou physiquement parlant lorsqu'il monte à la tribune d'orgue, Charlemagne Palestine, et oui, c'est bien lui, a accepté de venir chantouiller, schlinguer et discuter tout simplement au micro du Cri du Patchwork pour évoquer une exposition qui lui est consacrée en ce moment au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris. Une belle coda pour cette année riche en thématiques fouillées et dépouillées pour le plaisir de vos tympans. Et comme chaque mardi, un son qui reste entre les dents. Le Cri du Patchwork, coda.
Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine.
Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là.
Les la la la, cette façon de fredonner ou chanter sans aucune parole, technique qui semble relativement internationale. Chanter en faisant la la la, c'est avant tout faire preuve de joie, de bonheur communicatif, d'insouciance, jusqu'à en devenir totalement inconscient. Comme Brigitte Fontaine et Areski, la la lisant tandis qu'explose leur immeuble. Faire la 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 pour oublier la réalité.
Qu'est-ce qu'il y a ?
T'as pas entendu un truc bizarre ?
Si ?
Qu'est-ce que c'est ?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
We'll be right back. Jugband Blues des Pink Floyd, ou lorsque le la-la-la insouciant d'une chanson devient le vecteur d'une expérimentation sonore psychédélique. Mais depuis quand fait-on la-la-la ? Je n'en sais fichtre rien. Les sources à la Renaissance sont en tout cas nombreuses, dans des chansons à boire par exemple, régulièrement associées à un nom de personnage bien souvent poivreau ou paillard, ça va de pair. Jacobus Clemens, plus connu sous le sobriquet de Clemens non papa, ce moine ivrogne virtuose du contrepoint nous donne une version tout en finesse de « La la la, maître Pierre, buvons donc !» alors que le « la 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 » est plus un appel à la beuverie qu'à un appel au chant. Mais le champion des la-la-la et autres tra-la-la est Georges Bizet. On en trouve bien entendu dans Carmen, Les Pêcheurs de Perles ou encore dans La Jolie Fille de Perth, dans l'air de Ralph, voix de baryton basse. Et tout à coup, le côté guilleret du tra-la-la, d'habitude entonné dans des aigus sautillants, revêt un tout autre visage. Ivres, mais malheureux, les tra-la-la de Ralph sont tout en demi-teinte, dans un numéro très fin et tout en oxymore musical, où l'orchestre vacille et tente de faire décoller le personnage, mais celui-ci s'enfonce à chaque fois dans son humeur sombre. Il y a donc les la-la-la, les tra-la-la, mais des fois, ça peut se transformer en laï-laï-laï. Variante délicate, même dans la voix rauque de Tom Waits dans Reaper Band. La voix utilisée pour faire ces tra-la-la ou la-la-la change tout le contexte et leur signification. Prenez la voix schizophrène de Mike Patton dans le groupe Fantomas. Donnez-lui à interpréter des la-la-la au départ bien glauques comme il faut, ceux de la BO de Rosemary's Baby, film d'horreur de Roman Polanski. Des la-la-la à la fois enfantins et poupons comme totalement flippés. Et évidemment, pour passer d'un extrême à l'autre, il y a Mike Patton. La, 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 la. arrête les la-la-la malsains ? De folie amoureuse et insensée, en tout cas faisant perdre les sens, faisant perdre les mots pour les remplacer par des la-la-la. Un extrait des folk songs de Luciano Berio, le ballot italien, comme une forme de tarentelle enivrante. Et quand on a oublié les paroles d'une chanson, c'est bien souvent pratique de chanter la-la-la-la-la. Hein, monsieur Didier Vampas ? C'est facile de se moquer, hein ?
Je vais faire la-la-la-la.
Des la-la-la, en veux-tu, en voilà, toute une histoire sans parole. Parce qu'ils peuvent finalement dire tout et n'importe quoi, ces la-la-la. Pour rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont suggéré des la-la-la dans tous les sens, voici pour terminer l'année un patchwork de la-la-la. Avec les Fugees, Kali, Naughty Boy, Charles Trenet, Berrurier Noir, Frank Zappa and the Mothers of Invention, Opus, The Delphonics, Kylie Minogue, Electric Bazar Company, Rita Mitsuko, Massiel, François Delon.
savez qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Charlemagne Palestine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sonariste, j'ai lu ça une fois, sonariste ou artiste sonore, plutôt que compositeur.
Ça vous... Oh non, compositeur, je n'aime pas du tout. Sonariste, oui, ça peut avoir. Je suis plasticiste, sonariste, sensualiste, j'espère. Oui.
Oui.
Mais non, pas compositeur.
Pas
ça,
compositeur.
C'est un mot. C'est un gentil mot, mais c'est juste pas moi. Et pour moi, le son est une matière. Mmh. C'est pas un langage comme quand on compose. C'est une matière comme art plastique pour moi. Toujours été. Mmh. So, je m'approche, c'est plus sonariste. Ça, c'est un gentil mot.
Et vous êtes au centre d'une exposition qui est en lieu en ce moment. C'est au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Ça a lieu depuis le 17 mai jusqu'au 19 novembre prochain. Et deux commissaires, Marie Canet et Fanny Schumann, vous ont demandé de réunir pas mal de choses de votre entourage visuel, sonore. Et justement, vous êtes venu avec un extrait de
un
cette...
Un extrait de Charlemagne, remixé par Charlemagne.
Charlemagne Palestine, on écoutait une prise en live dans l'exposition qui s'appelle Charlemagne Palestine au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, ici avec quatre pistes qui se mélangent dans tous les sens et puis on discerne des bouts de votre vie, c'est-à-dire on entend un piano, on entend un petit peu d'orgue, on entend une voix aussi qui fait des
oui,
sortes de la-la.
Oui, il y a des carillons, mes carillons qui sortent, mes électroniques. Il y a aussi les sons des chazen, ça veut dire les juifs qui chantent des prières... ancienne sacrée que j'ai fait aussi. C'est pas moi qui chante ça. J'ai actuellement pris des extraits de quelques des grandes chazans du temps parce que ça c'était une inspiration quand j'étais tout jeune et comme c'est un musée juif, j'ai pensé c'était bon à mélanger tout ensemble.
Vous disiez que vous étiez rentré dans un cœur d'enfant en faisant des la 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 et qu'ils vous avaient accepté pour pouvoir faire des la 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 avec eux. Et
oui,
aujourd'hui, vous continuez à faire des la la.
Tu peux aller très loin avec la la la.
Ouais.
Je crois. là, on sait, c'est pas si c'est le premier Néandertal a peut-être dit la la la. Peut-être.
Et aujourd'hui, vous continuez à faire des la la la. Alors, on vous entendait par exemple devant
des
orgues.
Oui, je continuais à être une Néandertal moderne. Oui, oui, peut-être.
Parce que je me rappelle d'une performance que vous avez donnée devant un orgue, c'était à la Philharmonie de Paris. Vous étiez devant votre orgue, vous aviez posé une petite cale sur une note de votre orgue.
Oui.
Vous l'aviez laissé sonner, et puis tout d'un coup, oui. On a entendu un la 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 qui a émergé de votre voix.
Oui.
Et ce la 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 prenait une forme peut-être de raga. Un raga indien qui se superposait à cet orgue, et on avait l'impression de rentrer...
Un laga.
Ah, on l'a. Et bien ce laga qui naissait tout d'un coup, comme si on rentrait dans l'orgue avec vous.
Oui.
Et on prenait le temps d'écouter ce qui se passait. Est-ce que là, par exemple, lorsqu'on vient d'écouter cette boucle interminable qui va être présente lors de cette exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, pour vous, c'est l'occasion de proposer un temps extrêmement long sur plusieurs mois pour rentrer dans votre œuvre,
ah oui,
tandis
ça,
que vous ne faites souvent
ça,
que des une heure.
Ça, oui, ça, actuellement, il ouvre à 11 heures et il ferme vers 6 heures. Tous les jours, c'est une version de... 7 heures de cette remix. Oui, j'aime bien ça. Et tous les jours, pour combien de jours il y a dans 5 mois et demi? Mais oui, c'est long.
Ah
oui, j'aime bien ça. I mean, dans le temps, j'ai aimé bien ça. Spécialement long et diverse. J'étais pas le seul sonoriste à faire ça, mais dans le temps, on a eu le temps à faire ça.
Aujourd'hui, vous avez moins
maintenant,
de temps.
Maintenant, tout le monde, on est tous un peu in a hurry. ça, voilà. So, il arrive un peu moins souvent. Mm. Mais j'aime bien ça, oui, que vous dites. Ça m'a déjà encore me donné des, comment on dit,
des frissons.
Peau de poule.
La
quand
chair
tu
de poule.
Ah oui, long, comme ça, pour des mois. Ah oui, ça c'était dans ma original. Des choses qui continuent voler le terme de messien jusqu'à la fin du temps.
Et ça, très tôt chez vous, cette fin du temps, vous la cherchiez. Déjà, quand vous étiez carillonneur, vous étiez sur les carillons.
Oui,
et
oui.
Quand perché en haut de ce carillon, vous étiez en train d'expérimenter.
Oui.
Et puis, aujourd'hui encore, vous revenez régulièrement sur les carillons pour faire sonner ces carillons, non pas comme des mélodies que pour aller chercher, mais vous allez faire rentrer dans le carillon.
Oui.
Je propose d'écouter un petit extrait d'une œuvre qui a été faite avec Yannick Schaeffer,
oui.
Dans laquelle on vous entend parler du carillon avec une petite dame, je pense, qui est du nord, pas loin de Bruxelles sûrement,
oui.
Là où vous habitez. Et
oui.
On va écouter comment vous parlez de cet objet instrument.
C'est perdu quelque part.
Ah bon? Ah, il faut savoir, parce que vous jouez un peu comme du piano, hein?
Oui, mais un piano un peu skiff.
Voilà. Où il est le ré? Non, ça c'est pas... Dans l'offre, alors tu sais pas dire où il est, de Ré, Mi, Fa, Sol, hein? C'est bien.
C'est bien inventé, hein.
Ouais, une petite cloche.
Bien.
Voilà.
Bon homme, comme il dit.
Récemment, je joue moins le harmonium, mais dans le temps, j'ai deux harmoniums. Une qui était d'un grand musicien de l'Inde du Sud que j'ai rencontré à CalArts, Ranganathan.
Ranganathan.
Et il est mort et sa veuve a décidé qu'on a eu une bonne relation, son mari et moi, souvent même whisky. Et j'ai inhérité un magnifique harmonium.
Oui, parce qu'on vous entend jouer de l'harmonium dans cet extrait de cette œuvre de Yannick Schaeffer et vous-même, Charlemagne Palestine, Fables from a Faraway Future. On vous entend parler de ce carillon avant de rentrer dans une pièce, dans un endroit un peu plus intime. On vous entend avec cet harmonium et cette possibilité de créer des sons extrêmement longs que peut produire l'harmonium ou l'orgue. Et puis ce carillon qui est vraiment l'inverse. Le carillon, ce ne sont que des impacts, ce sont que des sons très très courts. Et tout ce que vous avez cherché dans le carillon, c'est finalement essayer de trouver cette manière de faire du son long. Et on arrive à ce strumming, cette manière
oui,
de gratter
c'est le muscle,
l'instrument.
Oui, les muscles qui font le continuum, oui, oui, oui. Parce que le strumming, oui, oui, c'est exactement ça.
Le strumming music, c'est quelque chose qui est apparu avec le piano, lorsque vous aviez deux pianos de chaque côté, par exemple, et que vous alterniez
oui,
la même note.
Ça, c'est un peu plus tard, mais oui, c'est ça. Mais en fait, il a commencé avec le carillon. Mm-hmm. C'était les cloches que j'ai essayé de faire continuer, mm-hmm. différemment qu'en son tradition classique dans les siècles où tu joues beaucoup de musique, ding-dong, ding-dong, ding. Mm-hmm. Et j'ai essayé à faire un instrument qui continue. D'abord, c'était le carillon. Et après, il est devenu, en fait, le Burzendorfer, qui était le grand carillon des pianos.
Oui, parce que finalement, un piano, c'est une sorte de carillon. C'est-à-dire qu'on a à peu près la même résonance. Parce qu'à chaque fois que vous faites du piano, vous posez une cale sur la pédale de forte, c'est-à-dire la pédale de résonance, pour laisser tout l'instrument résonner et retrouver finalement ce que vous aviez déjà dans le carillon.
Oui, oui, c'est ça. So, c'était vraiment une directe connexion. Ouais. Mm. Mais c'est difficile, un carillon, c'est toujours sur place. C'est un énorme bazouf instrument, toujours sur une certaine rue, dans une certaine tour, etc. Et piano, c'était une autre bazouf. Ma impériale qui a eu 9 notes plus que n'importe quel autre instrument du monde, le Burzendorfer impérial, inventé par la famille Burzendorfer et Busoni, en fait.
A donné Busoni,
l'inspiration à les Burzendorfer à la fin du 19e siècle à Vienne.
Et c'est quand même étonnant de la part de quelqu'un qui a toujours recherché du son long d'avoir quasiment toujours travaillé sur des instruments à son cours. Est-ce que c'était une volonté d'aller contre l'instrument pour essayer d'y trouver quelque chose que vous cherchiez? Pourquoi pas avoir choisi, je sais pas moi, une vielle à roue?
Je ne sais pas pourquoi. Peut-être j'étais paresseux, juste tombé dessus. Mais j'ai eu des muscles comme ça. Et il a me donné aussi une participation. Sinon, si vous êtes un instrument qui déjà peut faire ça sans vous, vous n'êtes pas utile. Mm-hmm. So, si je become un clanger, on peut dire. Mais ça, c'est aussi parce que j'étais inspiré beaucoup par le gamelan. Et dans un gamelan, il y a souvent des métallophones qu'il faut jouer. Tu attends jusqu'à ce qu'il donne sa propre... Et après, tu touches encore. Et c'est la collaboration entre la matière et l'être, peut-être.
Et dans ce lien entre la matière et l'être, évidemment, lorsque vous êtes devant un piano et que vous êtes, ou deux pianos et que vous êtes à alterner de manière aussi constante un même accord qui va se modifier au fur et à mesure, vous avez aussi cette intention de modifier le son, de le transformer sur un ton extrêmement lent. Et puis finalement, on sent aussi qu'il y a une forme d'épuisement physique qui se crée. C'est-à-dire quand on entend un gamelan javanais ou un gamelan balinais plus, la rapidité d'exécution.
Mais moi, c'est plus les javanais qui m'inspire.
D'accord.
Parce que c'est plus long.
D'accord.
Et le son change, comme chez les Russes, il change le tempo. That's plus javanais que balinais. Thank you.
Alors on a enchaîné The Golden Mean pour deux Bösendorfer, ici interprété par Charlene Palestine, et puis on a enchaîné vraiment très abruptement, mais pour montrer que ce strumming, cette manière d'enchaîner des accords, une sorte de battement continuel pour arriver à créer un son extrêmement long, se retrouve aussi avec le carillon. C'était Music for Big Ears, que vous interprétiez ici Charlene Palestine avec Jeffrey Bossin, notre carillonneur. Et puis vous me disiez, mais ils sont là les Big Ears, et vous avez sorti deux peluches, parce que ce sont oui. C'est des pièces qui ont été écrites pour deux peluches qui ont des grandes oreilles.
Avec nous partout du monde depuis maintenant vers 16-17 ans, cette particule 2 qui sont sur le CD, Eric et Oliver Big Ears, et sont ici dans le studio,
et
sont très contents parce qu'ils ont entendu leur propre musique. Ici, chez vous.
Et ben, je suis très enchanté d'avoir fait plaisir à Monsieur Big Ears.
Malheureusement, on ne peut pas regarder dans le radio. Voilà, ça c'était dans le temps.
Parce que oui, ça, c'est, on est dans une performance quand même avec Jeffrey Bossin ici. Vous êtes tous les deux devant votre carillon, à enchaîner pendant quasi une heure ces quelques notes. On est d'abord sur une quinte juste, puis ensuite vous rajoutez au fur et à mesure. Et vous créez un amas de sons progressivement où on rentre vraiment à l'intérieur. Et l'illusion que l'on peut avoir en tant qu'auditeur, je ne sais pas pour vous, chers écoutants, ce que vous avez senti, c'est qu'on a l'impression qu'une mélodie se dégage et qu'elle est à chaque fois tout le temps différente. On a l'impression qu'on se balade à l'intérieur. Est-ce que pour vous, nous faire rentrer dans le son du carillon, du piano, d'un orgue avec ce strumming, c'est nous permettre d'imaginer une musique qui serait cachée derrière les notes?
Non, mais ça, c'est exactement ce que, si les gens maintenant vont aller au musée juif et entre une ancienne écurie que j'ai maintenant animée avec le son comme ça, mais aussi vous allez voir visuellement, animistement. Il est ça maintenant dans tous les sens. C'est une total Gesamtkunstwerk.
Ah, je suis très heureux que vous disiez ce mot-là, Charlene Palestine. Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire l'œuvre d'art totale.
Oui,
et c'est vrai
qui n'était pas inventé par Richard Wagner, mais il était le premier important personnage de son temps, les mi-19e siècle, à utiliser ce terme qui était inventé par un poète-écrivain, en fait. Et j'aime ce terme. Ça veut dire une œuvre d'art totale. Et dans le temps, quand j'ai commencé à New York dans les années 60-70, j'étais un multimédia artist. But that's so big à être une Gesamtkünstler. Ah, ça, il sonne comme un magnifique carillon.
Et c'est vrai que là, dans cette exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme, on voit tout votre univers visuel, c'est-à-dire et les peluches qui sont vraiment vos compagnons de concert,
des divinités,
de performance, des divinités. C'est pour ça qu'on parlait d'animisme, vraiment, là on y est. Ces divinités placées, parce qu'on a l'impression de voir une sorte d'hôtel aussi dans lequel on voit tout cet univers coloré qui participe de votre univers visuel et qui correspond à cette coloration du son.
Maintenant, tous les éléments exactement ce que vous avez dessiné avant, ce maison a devenu ma monde.
Un cosmos?
Ma cosmos. Un bon mot, hein, là. Cosmos. Et un autre mot récemment que je n'ai pas utilisé, une de mes plus anciennes sonorités était musique pour le sublime. Oh. Et quelqu'un a parlé juste récemment de le mot sublime que j'ai oublié. Et cosmos et sublime ne sont pas des mots qu'on semble, je suppose, de notre époque, mais peut-être on peut reporter ces mots parce que ce sont des gentils mots, je trouve. Très évocatifs et résonants et fait dérailler la tête et tout.
Faire dérailler la tête. Et dérailler la tête avec des sons, parce que souvent, on pourrait dire que votre histoire, c'est un peu une histoire de spling, sing, schming. Non, c'est pas ça le titre.
Oui,
c'est quoi,
oui.
C'est...
Moi, j'ai un problème à dans le jour que j'ai inventé, il était parfait. Mais depuis, il est difficile pour moi à le réciter aussi.
Alors, je l'ai écrit, il est quelque part. C'est sing, schling, schping.
Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà.
Et le sling, schling, schping, ça pourrait être un bon résumé de comment chaque schping du monde pourrait nous faire entrer dans un univers sonore incroyable.
Oui, c'est ça la raison de ma bouche a explosé dans ce moment et j'ai créé ce titre. Voilà.
Et moi, quand je pense à ce sing, schling, sping, je retombe dans le gamelan dont vous parliez tout à l'heure, Charlemagne Palestine, qui a vraiment été très présent et puis que vous trouviez un peu partout lorsque vous jouiez du piano. Il y a un livret d'un disque que j'aime beaucoup qui s'appelle God Beer, qui est un autre, God Bear, qui est un
Beer, ça c'est on boit une bière.
Oui, c'est autre chose, on est d'accord. On pourra en reparler, il est 23h30, 23h40, plus tard. Donc, l'idée, c'est que ce God Bear, cette note de vos peluches, assez sacrée, finalement. Qu'on
retrouve... Et il y a beaucoup de God Bear dans l'expo.
Et dans ce disque God Bear, vous parlez comme ça en disant, lorsque je me suis mis dans un piano, sur un piano, et que vous étiez en train de strummer, de strumming musique, tout d'un coup, vous avez entendu un peu tout ce que vous aimiez. C'est-à-dire, il y avait Claude Debussy là-dedans, il y avait Olivier Messiaen, il y avait Bill Evans, il y avait Thelonious Monk, il y avait McCoy Tyner, du gamelan, du carillon, de l'orgue, du raga, et tout ça dans un seul endroit et au même moment. Le fait de faire cette musique où vous allez jusqu'à l'épuisement, vous parlez de faire saigner vos mains, pratiquement, dans ces performances d'une heure, une heure et demie, d'aller jusqu'à une douleur, alors que vous cherchez une sorte de plénitude. Est-ce qu'on n'a pas justement une sorte de conflit un peu particulier qui se crée à cet endroit-là?
Maintenant, quand vous dites ça, je pense de Charles Lawton dans le Notre-Dame de Paris, parce que dans le temps, quand j'étais jeune à New York, j'étais le Quasimodo de Manhattan. et quand tu expliques comme ça, je pensais de Quasimodo. Oui, ça c'était un de mes grands héros, Quasimodo. À vrai dire, il était un caractère tragique, mais sa façon d'être carillonneur, ça, je trouve, même la construction mythologique et tout, on ne sait pas s'il a fait ça, mais j'étais à Ola, à voir récemment, parce que j'ai un carillon chez moi, fait par la compagnie Iceberg de Aston, Hollande, et c'est eux qui a, avec une compagnie en Bretagne a refait Notre-Dame pour son anniversaire il y a 2-3 ans. Notre-Dame était réaccordée et les cloches étaient refaites. Et ça, c'était l'atelier de Quasimodo. Notre-Dame.
Et c'est vrai que souvent, quand vous jouez même ne serait-ce que de l'orgue, Charlemagne Palestine, vous vous mettez dans votre atelier un peu au-dessus de nous, obligé, dans une église, vous êtes toujours au-dessus de nous.
Oui, souvent, vous comme le fantôme de l'opéra au Quasimodo, vous avez des certaines...
C'est ça. Et pourtant, vous avez quand même tout votre rituel avec toutes ces peluches, toutes cette installation que nous ne voyons
des divinités.
Vos divinités, excusez-moi, je dis un gros mot depuis le début de cette interview, c'est terrible. Vos divinités sur la même Palestine, et à chaque fois, vous créez cet espace visuel que l'on ne peut voir, et pourtant vous en avez besoin pour créer. Est-ce que toute votre histoire, c'est une histoire de rituel?
Ah oui, certainement, Rituel, transe, entrer une autre dimension, bien sûr. Et un musée juif, maintenant, c'est la plus radicale version de ça, peut-être. Vous entrez une sorte de... entre une synagogue, une église, une discothèque, une trip de LSD, tout ensemble.
Et ce tout ensemble, on le retrouve dans Timbrel Assault pour piano, parce que là, on a vraiment une sorte de gros mélange avec cet assaut de timbres, vraiment, on entre dans le piano. Ici, vous êtes au piano, dans encore ce strumming, mais qui bouge énormément cette fois-ci. un extrait de Timberlast.
Comment elle peut avoir dit que j'étais minimaliste? Quels imbéciles!
Un extrait de Timber Also de Charlemagne Palestine, et vous venez de dire comment est-ce qu'ils ont pu dire que j'étais minimaliste?
Oui, je sais pas, peut-être les gens étaient aveugles et sourds.
Sourds, alors, parce qu'en l'occurrence.
Oui, mais le mot, c'est le mot oui, qui a pris une certaine importance pour 30, 40, 50 ans.
Oui, et puis pourtant, ça, c'est compositeur.
Raison, c'est surtout raison, que vous étiez... Il y avait 15, 20 ans, j'ai commencé à essayer à changer le minimal à maximal. Et j'ai eu vous ne pouvez pas imaginer combien de résistance les gens... C'est comme je fais des choses sacrilégieuses. C'était ma propre création. Ah non, vous ne pouvez pas changer. Vous êtes... Excusez-moi, monsieur. C'est comme... La réformation protestante, si. Non, j'étais une trahison des catholiques à devenir protestant. C'était une trahison à des minimalistes à devenir maximalistes. Ce que j'ai fait, cette trahison, ça marchait. Et je suis maintenant à un certain âge relaxed et maximaliste.
Et c'est vrai, mais très tôt, finalement, ce geste maximaliste était là. Alors, moi, j'enlève même maximaliste, minimaliste. Disons un geste, le strumming, qui est vraiment votre manière de faire et de faire sonner l'instrument. Là, dans Timbral Assault, on voit que vous changez régulièrement pour trouver des consonances. Et puis, tout d'un coup, on entend la dissonance qui vient à l'intérieur et qui trouble complètement cette plénitude que l'on avait trouvée. Finalement, vous arrivez à nous créer de la surprise tout en cherchant une continuité. Est-ce que pour vous, finalement, de chercher ces endroits...
Et souvent, c'était... Des surprises pour moi aussi.
C'est ça,
j'ai
ce que
cherché.
Dire. Vous cherchez en temps réel.
J'ai cherché à l'instant. Mmh. Parce que j'ai jamais fait des répétitions d'un truc deux fois. J'étais toujours contre toute ma vie. Je suis contre répétition. Il faut refaire une aventure. Mmh. Mais jamais essayer à faire la même aventure que vous avez fait avant.
Et vous aviez quand même des chemins vers lesquels vous alliez. Parce que à chaque fois, des pièces...
Mais c'était des chemins que j'ai trouvés à l'instant. Mmh. Et souvent même, j'ai pas retourné. C'était, mais l'important, c'est la première fois toujours, parce que ça, c'est différent. Il y a beaucoup de gens, I mean, même tous les interprètes du monde, Rachmaninoff again, Stravinsky again, Messiaen again, Mahler again, que j'adore. Mais quand j'ai arrivé, c'était la première fois et peut-être la dernière fois. C'était un instant que, et ça, c'est... Des jazzmen fait de ça aussi. Il y a des certaines la possibilité enregistrée que vous pouvez faire magique à l'instant qui arrive, ils partent, et c'était plus jamais. Mm. Voilà, ça c'est spécial de notre temps.
Et à contrario, vous avez quand même travaillé avec l'électronique avant d'arriver justement sur l'orgue et ces moments d'improvisation. Vous avez quand même travaillé avec l'électronique, qui est quand même un médium. Qui est un peu fixe, c'est-à-dire on fixe quelque chose sur l'électronique et on va écouter une pièce qui s'appelle Seven Organism Study de 1968. Et puis aujourd'hui, on connaît très peu cette part-là de votre création, le travail sur le son électronique, parce que
oui,
peut-être Algemar, que vous avez trouvé la même chose sur l'orgue.
Il y a une compagnie à Milan qui a suivi beaucoup ma musique électronique parce que j'ai fait beaucoup dans le temps. Mm. Même j'étais avec Eliane Radic et quelques autres. On a fait des investigations avec des oscillateurs, filtres, toutes sortes de choses Santo, mais essayer à faire un langage. Et voilà, ça c'est Seven Organism Studies.
Un extrait de Seven Organism Study, une œuvre de 1968 pour électronique de Charlemagne Palestine. Merci Charlemagne Palestine d'avoir accepté l'invitation pour parler de votre univers, votre Gesamtkunstwerk, vous le disiez tout seul.
Merci.
Votre œuvre.
Merci à m'inviter. Je suis très content d'être à Paris de nouveau.
Voilà. Parce que oui, vous étiez venu dans cette radio ici à Radio France, c'était avec Daniel Coe.
Oui, au début, il y a très longtemps. Et oui, j'aimais bien. Daniel Coe était un saint.
Ne le sait que trop ici, écrit du patchwork. Et donc vous êtes ici à Paris pour une exposition qui a lieu au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ça s'appelle Charlemagne Palestine, tout court. Une exposition qui a lieu depuis le 17 mai jusqu'au 19 novembre prochain et qui est émaillée de différentes occasions de vous voir sur scène. Par exemple, ce sera le samedi 7 octobre pour la Nuit Blanche et vous nous réservez une petite surprise, on ne sait pas très bien ce qui va s'y passer. Et par ailleurs, le 13 septembre prochain, Charlemagne and Friends pour une sorte de diffusion de films expérimentaux. Tout ça évidemment sur le site internet du MAJ, mahj.org. Et n'hésitez pas à aller vous balader dans ces peluches, ces couleurs et ces sons superposés pour cette première exposition à Paris autour de l'univers de Charlemagne Palestine. Fin de notre dernier Cri du Patchwork de la saison. Merci à Perrine Mingui aux commandes et la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Valérie Lavalar. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son. On se retrouve dès le 29 août pour une nouvelle saison de thématiques, de sons, de rencontres, d'inepties et autres situations dada pour évoquer au plus vrai le monde de la création sonore d'aujourd'hui en poussant un bon vieux cri des familles. Et si vous avez manqué un épisode du Cri du Patchwork, ne vous inquiétez pas. Ils sont réécoutables sur le site de France Musique jusqu'en 2032, à quelques années près. De quoi passer un bon été, les pieds dans l'eau, avec du son plein les oreilles. Très chers écoutants.
Si je fais 1, Tagaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein, bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit, je passe la main à Anne Montaron et son Nala Brévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.